Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour madame Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la réforme des retraites à qui tout double pour Édouard Philippe.
Le Premier ministre cédera-t-il sur le sujet qui fâche, l'âge pivot, reprise des négociations demain et avant cela, conseil des ministres ce matin en mode combat, William Galibert.
Oui, le gouvernement va se montrer tout sourire pour cette rentrée, mais le fameux compromis sur les retraites est loin d'être trouvé.
On va y revenir dans un instant, mais d'abord, imaginez. Imaginez une voiture avec des super pouvoirs. Une voiture un peu médium, un peu Madame Irma, capable de voir dans sa boule de cristal qu'un accident va se produire, capable de l'empêcher du coup. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. Cette voiture existe et vous l'avez rencontrée, Christophe Bourou, au salon de l'électronique à Las Vegas.
Imaginez une voiture avec des yeux partout, à 360 degrés, capable de regarder devant, derrière, sur les côtés, exactement comme une grosse mouche. En réalité, ce sont des caméras reliées à des capteurs puissants qui peuvent analyser les regards et les mouvements des piétons, des cyclistes ou encore des trottinettes. Et ainsi, en analysant son environnement, la voiture peut carrément prédire ce qui va se passer et ainsi éviter l'accident. Démonstration avec Gilles Elmosino de chez Valeo.
Vous voyez, on a un piéton qui est en train de regarder son téléphone, l'écran de son téléphone portable. Il regarde absolument pas la circulation. Il va s'apprêter à traverser. Eh bien, la voiture l'a détecté. Elle a compris que le regard était porté non pas sur la voiture, mais sur le téléphone portable, que à travers les mouvements du corps, l'intention de traverser était très forte. Donc, ayant compris les mouvements que la personne était en train d'opérer, elle décide de freiner en quelques millisecondes avant même que la personne ait commencé à traverser.
Loin d'être un gadget, ce système pourrait éviter bien des accidents, dû notamment au smartphone. Ainsi, plus de 6 personnes sur 10 avouent regarder leur téléphone tout en marchant et en traversant la rue.
Reportage Retour vers le futur signé Christophe Bourou, envoyé spécial d'RTL à Las Vegas.
Et comme promis, nous partons maintenant à l'Élysée où se tiendra dans 2 heures le premier conseil des ministres de l'année.
Comme chaque année, il est précédé d'un petit déjeuner place Beauvau et comme chaque année, les ministres iront à pied du ministère au palais présidentiel. Mais en plein conflit sur la réforme des retraites, tout cela prend un relief un peu particulier, William Galibert.
Oui, il y a environ, 80 mètres entre la place Beauvau et l'Élysée. La route jusqu'au compromis sur les retraites, elle est beaucoup plus longue. Ce matin, vous aurez droit à l'image d'un gouvernement en rang serré. En coulisses aussi, on surjoue l'optimisme. Le nombre de grévistes baisse tous les jours, répètent les macronistes. Notre méthode est en train de payer. C'est du cas par cas pour les pilotes, les marins ou encore pour les danseurs de l'Opéra de Paris. Ça va continuer dans les jours à venir pour tenter de calmer les fonctionnaires. Demain, c'est la ministre du Travail qui recevra les syndicats. Pénibilité et aménagement de fin de carrière au programme. Elle est là, la marge de manœuvre du gouvernement. La CGT et tous ceux qui exigent le retrait ne font que de la politique. Ils ne sont plus des interlocuteurs crédibles à nos yeux, tranche un conseiller. Sur le papier donc, le ton est ferme, mais le chrono tourne et Emmanuel Macron va se charger de le rappeler à ses troupes. Ils ont à peine un peu plus de 15 jours maintenant pour trouver une sortie de crise.
William Galibert en direct de l'Elysée pour RTL. Et notez qu'Edouard Philippe sera l'invité exceptionnel de la matinale d'RTL demain matin. Le Premier ministre répondra aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40, à quelques heures d'une nouvelle rencontre avec les partenaires sociaux. Car les négociations sur les retraites reprendront demain au ministère du Travail. On va parler pénibilité et emploi des seniors, mais le vrai sujet, ça reste l'âge pivot, mesure chère à Edouard Philippe, mais jugée injuste et inutile par Laurent Berger. Alors c'est clair, tout ne sera pas résolu demain. Et en attendant, la grève s'éternise. 33e jour de mobilisation aujourd'hui. Le trafic reste très perturbé à la RATP. La SNCF, elle, promet une amélioration dès aujourd'hui. Franck Hanson, vous êtes à la gare Lille-Flandre pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, mais on peut le dire, les usagers sont épuisés.
Oui, les quais de la gare Lille-Flandre sont nettement plus animés ici, avec les 3/4 des trains habituels du matin affichés. Un trafic des TGV Nord quasi normal, notamment. Mais pour certaines liaisons régionales, c'est encore compliqué. Johan devait se rendre à Dourges pour une formation.
Ouais, je pense avoir un train, mais j'en ai pas. Bah, ils m'ont dit d'y aller sur l'Anse et de repartir comme si je revenais. Et pas galère. La SNCF, comme d'habitude. Ça double plein de gens qui veulent travailler, comme moi. Regardez, je commence ma première formation, c'est aujourd'hui. Ça le fait pas, je vais arriver en retard. C'est plus pénible qu'autre chose, en fait.
Des usagers nordistes donc un peu plus soulagés, mais toujours méfiants, comme Marie-Laure, directrice d'un centre de ressources médicales.
C'est fatigant parce qu'il faut tout anticiper. Il faut checker le dimanche soir si le train qu'on veut prendre est à l'affichage. On jongle. Moi, je souhaitais rester un peu plus tard à Amiens. Ma collègue devait partir plus tôt. On va prendre le seul train qu'il y a et puis on va rentrer.
Et beaucoup d'habitués qui partent à Paris sont de plus en plus nombreux avec leur vélo pliant, devenu quasi obligatoire pour se déplacer dans la capitale.
Franck Hanson à la gare Lille-Flandre pour RTL.
Et à 8h20, nous avons, je vous le rappelle, rendez-vous avec le secrétaire général de la fédération CGT Cheminots, Laurent Brun, sans doute le leader syndical le plus influent à la SNCF. Une pause et dans un instant, l'ouverture du procès Weinstein aux États-Unis, un scandale qui a changé bien des choses.
RTL, 8h05.
RTL Matin.
RTL, 8h06, la suite du journal Isabelle Choquet, Yves Calvi.
Il était l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, Harvey Weinstein, et jugé à partir d'aujourd'hui à New York.
Le célèbre producteur est accusé par des dizaines de femmes de harcèlement, d'agression sexuelle, voire de viol. Mais dans ce procès, il n'y a que deux plaignantes et rien ne dit que Weinstein sera condamné. C'est pourtant ce scandale qui a fait naître le mouvement MeToo, mouvement de la parole libérée et parfois déchaînée.
Alors pour autant, ce mouvement a-t-il vraiment changé Hollywood? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Et qu'est-ce qui a changé en fait depuis deux ans?
En fait, tout et rien. Un certain nombre d'hommes puissants sont tombés dans la foulée de Weinstein et Hollywood n'a jamais autant dénoncé le harcèlement sexuel. On l'a vu cette nuit aux Golden Globes où un film et une série nommés dans les catégories les plus prestigieuses décrivent justement la prédation sexuelle, la culture du silence dans l'industrie des médias et du divertissement, des projets portés par des actrices célèbres de Hollywood. Beaucoup d'entre elles ont d'ailleurs désormais plus de poids en coulisses, peuvent négocier de meilleurs salaires et en même temps, Hollywood continue à acheter le silence de femmes qui accusent les hommes d'agression. Or, c'est comme ça que Weinstein et d'autres ont pu agir impunément aussi longtemps.
Et pourquoi cette culture du silence n'a pas disparu ?
Justement parce que c'est une culture. Une journaliste du Hollywood Reporter, le journal de référence de l'industrie du divertissement, qui a beaucoup enquêté depuis deux ans à ce sujet, dit que la culture de misogynie de Hollywood ne pouvait pas s'évanouir subitement. Elle affirme que les studios préfèrent toujours éviter la mauvaise publicité de ces affaires et donc payent toujours des femmes jeunes, sans réel pouvoir, qui ont peur de voir leurs espoirs de gloire s'évanouir si elles dénoncent à la justice un puissant de Hollywood. Celles qui osent parler sont encore, parfois, mises de côté.
La question du 8h avec ce matin Philippe Corbet.
Et l'affaire Weinstein a clairement libéré la parole en France. En 2019, on a enregistré 52 000 plaintes pour des violences sexuelles. C'est une information RTL. C'est plus que 2018 qui était déjà une année record avec 50 000 plaintes. Au Proche-Orient, la colère gronde et elle se fait entendre dans la rue. À Téhéran ce matin, une foule immense a envahi le centre-ville pour rendre hommage au général Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine en Irak. On défile sur plusieurs kilomètres aux abords de l'université où se trouve le cercueil du chef militaire iranien. L'Iran qui crie vengeance et promet une riposte militaire. Téhéran peut compter sur le soutien indéfectible du Hezbollah libanais. Julien Fautra, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Beyrouth.
Oui, le Hezbollah en démonstration, les portraits du général Soleimani affichés en ville, distribution du drapeau jaune de la milice chiite et sur toutes les têtes, un bandeau avec une inscription rouge vif, mort à l'Amérique.
Discuter avec les États-Unis et Israël est impossible. Sachez-le, demain est un autre jour.
C'est dans des petits bus que la presse internationale est conduite au quartier Rouess, à Beyrouth Sud, dans un immense hangar où s'agitent déjà des centaines de drapeaux, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, une musique guerrière accompagne des images du général Soleimani. J'ai senti que c'était comme un père qui était mort, confie Sajida, 20 ans, avant de fondre en larmes. Difficile de distinguer la part de mise en scène et la part de sincérité, mais le Hezbollah, en difficulté depuis quelques mois, trouve ici le moyen de ressouder les troupes contre l'Amérique et Israël. On est avec toi, Nasrallah, hurle la foule avant que le chef du Hezbollah, qui vit caché, apparaisse sur un écran géant.
On sait qui a commis ce crime et il doit en payer le prix. Le juste châtiment après l'assassinat du général Soleimani est de s'en prendre à la présence militaire américaine sur nos terres.
Pour montrer que nous avons les capacités et nous pouvons répondre coûte que coûte, nous allons prendre notre revanche.
Revanche, vengeance, tous les ingrédients d'une escalade. Mohamed brandit une photo avec le visage du général Soleimani.
Les principes sur lesquels nous avons été éduqués qui sont la mort à Israël et la mort aux États-Unis. Et là, sur cette photo, c'est un assad. Ça veut dire que nous allons prendre notre revanche.
L'assassinat de la tête pensante de la stratégie iranienne au Proche-Orient ouvre une nouvelle phase dans la région, précise Nasrallah. Une nouvelle guerre, conclut-il, avant que l'écran géant s'éteigne.
Reportage en immersion de Julien Fautra, l'envoyé spécial d'RTL au Liban. L'Australie en a probablement pour des semaines encore face aux gigantesques incendies qui ravagent le pays. Des incendies qui ont fait 24 morts et brûlé l'équivalent de deux fois la Belgique. Hier soir, Emmanuel Macron a proposé une aide opérationnelle immédiate. RTL 8h10.
Nous sommes début janvier, c'est le temps des étrennes et ce matin sur RTL, nous nous intéressons à l'argent de poche des ados.
Oui, ils en reçoivent presque tous, généralement à partir de 12 ans. C'est ce que montre un sondage qu'RTL vous dévoile en exclusivité. Le montant moyen, c'est 33 euros par mois, mais avec quelques disparités selon les régions. C'est en Bretagne qu'on donne le moins. À l'inverse, en Occitanie, les parents sont plus généreux, près de 40 euros par mois. Reportage RTL de Patrick Tégéraud à Toulouse.
Lilia et Romane ont 14 ans. Elles viennent de dépenser un peu de leur argent de poche dans un grand magasin.
Et moi une chemise et un pantalon aussi.
Elles reçoivent la même somme tous les mois.
Ah, 20 euros. Et quand j'ai besoin d'un tout petit peu plus, et ben on me le donne.
Idem pour leur ami Clément qui sait qu'il peut compter aussi sur ses parents.
Si je m'achète des vêtements, bah, ils vont m'aider. Des fois ils vont mettre la moitié ou voilà, ou des fois je me les paye tout seul en économisant.
Pour Emma, ces 50 euros mensuels sont conditionnés par son comportement et ses résultats scolaires.
Bah, si exemple j'ai 9 de moyenne, ils vont pas me donner de l'argent.
Donc ça vous motive pour travailler?
Oui, enfin non, ça dépend des fois. Je monte que les bonnes notes.
Marie a deux enfants de 15 et 16 ans, elle donne à chacun 80 euros d'argent de poche mensuel, mais...
Ils gèrent tout depuis leur abonnement téléphonique jusqu'à les cadeaux qu'ils doivent faire pour les anniversaires de leurs copains-copines, les vêtements, le coiffeur. Ils ne me demandent rien au quotidien et ils vont surtout apprendre à prioriser leurs besoins avec un budget qui n'est pas illimité. Ils ont une carte de retrait de 20 euros par semaine et quand ils ont besoin de plus par semaine, et ben ils attendent la semaine d'après.
Et les achats sont bien sûr surveillés, pas question de gaspiller ou de faire n'importe quoi et les économies sont encouragées dans la perspective du permis de conduire, par exemple.
Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Le foot, 32e de finale de la Coupe de France. Il reste un match à jouer ce soir. C'est Rouen contre Metz à 20h55. Hier, le PSG n'a pas fait de cadeau aux amateurs de Linas Montlhéry, battu 6-0 avec notamment un doublé d'Edinson Cavani. Marseille s'est fait peur, mais l'a finalement emporté au tir au but face à Trélissac, club de National 2. Et à noter également l'élimination de Brest, battu 2-1 par Lorient après prolongation.
Alors, c'était le journal de 8h, mais tout à l'heure à 8h30, RTL vous propose, on vous en parle depuis ce matin, un nouveau rendez-vous.
Un reportage au long cours pour vous faire découvrir une personnalité, une tendance, une idée qui fait l'actualité. Ce matin, nous irons à la rencontre des chercheurs qui travaillent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Sophie Orange est l'une des rares journalistes à avoir pu pénétrer dans leur laboratoire.
Je vous invite à passer des combinaisons, les surchaussures, des masques et puis également des lunettes contre le laser.
Ça va faire un petit peu une voix comme Barbador. Vous devriez m'entendre quand même.
Voilà, rendez-vous à 8h30 avec Sophie Orange pour ce reportage.